Ireland.
Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette rediffusion des meilleurs moments d'accent, avec aujourd'hui des prisons différentes en Norvège et en République tchèque, alors que l'Irlande se distingue encore par la vétusté de ses geôles, la fronde des taxis contre les VTC à Paris mais aussi à Londres, enfin la musique encore et chaque jour de l'été avec Vincent Teval. En Europe, les détenus sont loin de mener la vie de château derrière leurs barreaux. Ils y sont même souvent entassés. La surpopulation carcérale concerne 22 des 47 pays membres du Conseil de l'Europe. En tête du tableau, la Serbie, l'Italie, Chypre, la Hongrie et la Belgique. En Irlande, la prison ressemble encore dans certains endroits à des établissements du 19e siècle et cela va durer quelques temps encore, Sébastien Duval.
Des travaux de rénovation se sont achevés le mois dernier dans la prison de Mountjoy à Dublin, la plus grande du pays. Tous les détenus disposent désormais de toilettes dans leurs cellules, un luxe dont sont encore privés 334 d'entre eux dans les autres établissements irlandais. Les règles sont claires derrière les murs de la prison de Cork. À partir de 21h, plus personne n'est autorisé à sortir des cellules. La plupart n'ont pourtant pas l'eau courante. Les détenus doivent donc satisfaire leurs besoins naturels dans des seaux en plastique. Privés de lavabo, ils ne peuvent pas non plus se laver les mains et sont contraints d'attendre jusqu'au lendemain matin pour vider leurs tinettes dans des sanitaires collectifs. Pour ne pas arranger les choses, l'établissement est largement surpeuplé, avec plus de 330 prisonniers pour seulement 140 places. La plupart sont donc contraints de partager leurs cellules et leurs moments d'intimité. Les odeurs sont tellement insupportables dans cet environnement confiné que certains détenus utilisent plutôt des sacs en plastique qu'ils jettent ensuite par la fenêtre de leurs cellules. La branche irlandaise d'Amnesty International dénonce depuis des années cette pratique dégradante. Un ancien détenu a même porté plainte sans succès devant la Cour suprême en 2010 afin d'obtenir réparation. Les juges ont estimé qu'il avait bénéficié d'une position relativement privilégiée dans une cellule individuelle. Les services pénitentiaires irlandais se sont néanmoins engagés à mettre un terme avant 2016 à ce que l'on appelle ici le « sloping out ». La construction d'une nouvelle prison a débuté au mois de janvier dernier à Cork. Toutes les cellules sont équipées de toilettes.
Un contraste saisissant maintenant avec cette expérience menée dans la prison de Bastøy en Norvège, une prison ouverte située sur une île à une centaine de kilomètres au sud d'Oslo. Elle accueille 115 détenus, libres de leur mouvement, tant qu'ils restent sur l'île, coupés du monde. Certains pourraient y voir un camp de vacances, c'est loin d'être le cas, le reportage de Pauline Curtet.
Des gardiens sans armes, sans tenue réglementaire à l'exception d'un polo bleu clair, difficile de les distinguer des détenus. Et c'est la première chose qui frappe les visiteurs à leur arrivée sur l'île de Bastøy, après une traversée de 20 minutes sur un petit ferry. Finn Viggo Molland est l'un des 35 gardes présents sur l'île la journée. C'est aussi l'un des plus expérimentés. Il travaille dans la prison de Bastøy depuis 1991. Lorsqu'on lui demande pourquoi il ne porte pas d'armes, il est très surpris de la question.
Je n'en ai pas besoin. Mon arme, c'est ma tête. Je n'ai jamais été effrayé ou été intimidé par des détenus. S'il y a un problème, on se parle, on trouve une solution. Je ne veux pas me cacher derrière un pistolet ou du gaz lacrymogène. J'essaie d'avoir de bonnes relations avec les prisonniers. Je les respecte, j'ai le sourire et c'est le plus important.
Parmi les 115 détenus présents sur les 3 hectares de l'île de Bastøy, certains finissent de longues peines pour trafic de drogue, viol ou même meurtre. D'autres sont là pour des délits financiers ou du vol aggravé. Mais peu importe la peine, tous sont logés à la même enseigne. Ils partagent des bungalows colorés par groupe de 6 et ont chacun leur chambre meublée. Le midi, ils mangent dans la même cantine que celle des gardes. Le soir, ils dînent dans leur bungalow, après avoir fait leurs courses dans la petite boutique de l'île, elle aussi tenue par un détenu. La journée, les prisonniers sont très actifs. Atelier mécanique, ébénisterie, ramassage des poubelles à l'aide d'une charrette tirée par des chevaux, élevage de moutons et de vaches, jardinage, il y a le choix. Mais comme dans une prison ordinaire, ils doivent se rassembler 4 fois par jour sur la place principale pour l'appel. Vincent, on l'appellera ainsi, est sur l'île depuis 3 mois. Ce détenu norvégien de 70 ans est chargé, lui, de s'occuper de l'intendance de son bungalow.
Ici, c'est pour maintenir la maison en bonne hygiène, en bon ordre, et pour aussi chauffer. Et pendant l'hiver, c'est beaucoup de travail. Ça dure de l'après-midi jusqu'à 1-2 heures du matin. Ce n'est pas du luxe. Hein. C'est confortable, mais c'est une prison. Sans blague. Hein. Communication, des téléphones, de l'Internet, tout ça, on n'a pas. On perd l'intérêt de ce qui passe à l'extérieur. Des journaux que je lisais librement avant, ça ne m'intéresse plus. Parce que je ne peux pas participer. J'ai perdu presque 20 kilos en 3 mois.
En Norvège, l'existence d'une prison telle que Bastøy ne fait pas débat. À ceux qui, venus de l'étranger, restent abasourdis par le niveau de confort des détenus présents sur l'île, le gouverneur de la prison, Tom Eberhardt, apporte une réponse qu'il semble avoir répétée encore et encore.
The thing about imprisonment in Norway.
En Norvège, quand on est condamné à une peine de prison, la punition, c'est de perdre sa liberté. Sur cette île, les détenus le ressentent. Certes, la vue est belle, mais ils ne sont pas libres de partir. Ils ne peuvent pas recevoir de visite comme ils le souhaitent. Ils suivent exactement les mêmes règles que dans les autres prisons norvégiennes. Un détenu m'a dit que le soir, quand il regardait par la fenêtre de sa chambre, il voyait les lumières. Il entendait les bruits de la ville la plus proche, sur la côte. Pour autant, il ne se sentait pas libre, car il ne pouvait pas aller en ville.
And then he will feel that he's not free.
Sur l'île, qui compte aussi une église, une bibliothèque et un groupe de blues formé par des prisonniers, les détenus restent en moyenne un peu plus d'1 an. La plupart viennent ici pour finir une longue peine, d'autres, emprisonnés pour des délits mineurs, arrivent ici directement. Mais la demande est très forte, bien sûr, comme le précise Ali Moussa, un Algérien qui devrait être libéré dans 1 mois.
Avant, j'ai été à notre prison, les gens ils parlent des Bastøy.
Ils ont toujours envie de venir ici?
Oui, oui, beaucoup de gens, mais j'ai beaucoup de chance. Elle est magnifique, cette place. Et c'est très joli, très joli. Il y a tout ce qu'il faut. C'est fantastique. Les gens, ils sont bien, ils sont respectés.
Reste à savoir si un passage par Bastøy aide vraiment les prisonniers à se réinsérer dans la société norvégienne. Et à ce sujet, les études sont plutôt contradictoires. Certaines évoquent un taux de récidive de 30% pour les détenus de Bastøy, contre 60 ou 70% dans le reste de l'Europe.
Autre initiative de prison différente menée cette fois-ci en République tchèque. Depuis 2002, une prison incarcère les mères en compagnie de leurs jeunes enfants, ce qui permet aussi de lutter efficacement contre la récidive. Christine Dupré.
À Svetlana Tsazavu, petite ville du centre de la Bohême, la prison pour femmes accueille 500 détenus, parmi elles entre 6 et 10 mamans avec enfants. La loi tchèque interdit d'incarcérer des femmes enceintes. Celles-ci, condamnées en général pour vol, trafic de drogue ou prostitution, passent donc leur grossesse chez elles en pointant régulièrement au commissariat. Elles commencent à purger leur peine après l'accouchement avec leur enfant autorisé à vivre en prison jusqu'à l'âge de 3 ans. La vie des tout-petits, présentée récemment dans un documentaire, ne semble pas traumatisante. Ils passent beaucoup de temps avec leur mère, dorment dans sa cellule, jouent tous ensemble. Les nuits peuvent être plus compliquées. La ronde des surveillantes et le petit pinceau de lumière braqué sur l'œillet de la porte réveillent parfois les bébés. Les mamans, elles, se reposent, se reconstruisent. Elles ont en général été amenées à la délinquance par des hommes, ont souvent été battues, violentées. Pas question pour elles de revoir le père de leur enfant, difficile de renouer avec leur famille qui ne veulent plus entendre parler d'elles. La vie de ces jeunes femmes, tchèques, ukrainiennes, roumaines, ouzbèques, tourne donc autour de leur enfant. Le personnel pénitentiaire en est bien conscient et fait le maximum pour que les mamans puissent quitter la prison avec le bambin. À Svetlana Tsazavu, on multiplie les demandes de remise de peine pour les mères condamnées à plus de 3 ans d'incarcération. En cas d'échec, la séparation avec placement provisoire de l'enfant dans un orphelinat est un traumatisme qui conduit souvent la mère à retomber dans la délinquance à sa sortie de prison. Pour les mamans libérées avec leur enfant, le taux de récidive n'est que de 5%.
Il n'y a pas qu'en France que les taxis bataillent contre la société Uber et les voitures avec chauffeur. À Londres, les Black Cabs demandent eux aussi que la société de voitures avec chauffeur soit soumise aux mêmes règles, ou presque. Le reportage de Marie Billon.
Ils étaient 12 000 Black Cabs à klaxonner et à participer à l'opération Escargot à Londres début juin. Sur des banderoles, ils désignaient leur ennemi, non pas Uber, mais Transport for London, TfL, l'organisme qui accorde les licences aux taxis et aux entreprises de VTC à Londres.
Nous n'avons rien contre Uber ou les compagnies de ce type. Nous ne sommes pas contre la concurrence. Ce qui nous dérange, c'est qu'Uber a le droit d'utiliser des taximètres. C'est contre la loi et pourtant TfL les autorise à exercer.
Parce qu'à Londres, seuls les fameux Black Cabs sont autorisés à avoir un taximètre. Dans ce cas, le prix de la course dépend du temps passé dans la voiture et du trajet. Les autres taxis, les VTC, voitures avec chauffeur, objet de toutes les critiques en France et dans nombre de capitales européennes, aussi appelés minicabs en Angleterre, sont censés donner des prix fixes à leurs clients avant de commencer la course. Mais Uber jouerait sur les deux tableaux. Steve McNamara est le secrétaire général de la LTDA, l'association des chauffeurs de taxi porteurs de licence.
Notre problème, c'est que TfL a donné à Uber le droit d'exercer illégalement. Il ne l'oblige pas à suivre les mêmes règles que les autres compagnies de minicabs. Uber a un taximètre. C'est une application installée sur un téléphone qui n'est même pas un vrai téléphone, puisqu'il ne permet pas de passer ou de recevoir des appels. Le seul but de cet appareil, c'est de calculer le prix de la course. Ici, on a une expression. Si ça marche comme un canard, que ça cancane comme un canard, alors c'est un canard.
C'est aussi à travers cette application que les chauffeurs reçoivent les réservations. Mais l'organisme qui gère l'application et donc ses demandes serait basé aux Pays-Bas. Ce qui aurait deux conséquences. La première est qu'il n'y a pas d'opérateur qui fasse l'intermédiaire entre le client qui commande la voiture et le chauffeur, chose interdite au Royaume-Uni puisque la voiture ou le taxi doit dépendre d'un organisme qui est aussi le responsable légal en cas d'accident. Ensuite, explique Steve Wright de la compagnie Taxi and Private Hire Vehicle Operators, Uber fait de l'évasion fiscale en gérant ses commandes de l'étranger.
Uber London possède une licence, mais quand vous utilisez l'application, vous ne communiquez pas avec Uber London. La réservation est prise en charge par une compagnie néerlandaise qui, elle, n'a pas de licence. Nous doutons que ce soit légal et nous demandons pourquoi ils font ça. Je préfère ne pas en dire plus.
Uber exercerait donc de manière illégale. C'est là-dessus que se focalisent les taxis, les associations et les syndicats. Ils ne sont pas contre la concurrence, disent-ils, si elle n'est pas déloyale, Steve McNamara.
À Londres, on ne laisse pas les chauffeurs de taxi choisir les voitures. Ils ne peuvent conduire que deux modèles. Nous sommes l'industrie de taxi la plus régulée du monde. Pour devenir chauffeur de taxi, il faut connaître les routes par cœur. Ça prend 3-4 ans. C'est ce qu'on appelle le knowledge. On nous impose des prix, nous sommes contrôlés de façon très pointilleuse. Et puis voilà qu'Uber débarque à Londres et exerce sans même appliquer les règles qui s'applique au VTC.
Sauf que Transport for London réfute toutes ces accusations. Gareth Emerson est le chef opérateur de TfL.
Il est clair pour nous qu'Uber n'a pas de taximètre, mais nous comprenons aussi le point de vue des opposants. Les technologies ont beaucoup évolué depuis que la loi a été votée à la fin des années 90. Le texte laisse place aux interprétations. La seule manière de régler le problème, c'est de demander aux tribunaux de statuer.
C'est la Haute Cour de justice qui tranchera le litige. Mais si la LTDA ne veut pas que la loi change, son dirigeant Steve McNamara est très clair, d'autres souhaitent une réforme des texte en vigueur. C'est le cas de Brian Roland de la National Private Hire Association, une association de VTC.
La législation qui couvre les black cabs date de l'ère victorienne, celle qui régit les VTC d'avant les téléphones portables. Rien n'est à jour. Alors, est-ce qu'Uber respecte les règles? On ne sait pas, il n'y a pas de règles. Quel texte régit les applications? Il n'y a rien, rien du tout. C'est vraiment le problème avec notre législation, elle est tellement ancienne qu'à chaque fois qu'il y a une nouveauté, il faut aller en justice.
Alors, selon Brian Roland et l'organisme londonien TfL, l'arrivée d'Uber pose certes quelques soucis, mais elle va peut-être faire bouger les choses.
Finalement, peu importe le type de licence. Aujourd'hui, ce qui importe, c'est ce que veut le public. Et de nos jours, la plupart des clients ne cherchent même plus un taxi. Ils prennent leur téléphone et ils cliquent. Les black caps vont devoir s'adapter. Certains l'ont déjà fait. 15 000 d'entre eux ont déjà souscrit à une application de réservation. Mais si la majorité des taxis londoniens veut rester à l'ère victorienne, ils vont disparaître.
Uber a une stratégie de communication minimaliste. La compagnie s'en tient aux réseaux sociaux et n'accorde que très peu d'interviews. Pas besoin, le 11 juin, jour de la manifestation à Londres, la start-up américaine a dopé son trafic en multipliant par 8 à 10 le nombre de ses réservations.
La bande-son de l'été dans Accent d'Europe, c'est avec Vincent Teval.
Michael Paskalev, c'est un jeune Norvégien d'origine bulgare. Il a grandi dans la petite ville de Elsund, à l'ouest de la Norvège, mais a fait ses études à Liverpool, au Institute for Performing Arts. De retour au pays, il s'investit pleinement dans la musique, avec d'abord quelques singles en 2012, et puis un premier album en 2013, qui rencontre un beau succès en Norvège. Il est très joliment titré « What's life without losers ?»« Que serait la vie sans les perdants ?» Et on espère que ce folk gracieux aux douces inflexions rock'n'roll trouvera partout un accueil à sa hauteur.
C'est la fin d'Accent d'Europe, émission réalisée et mise en onde par Françoise Grelot. On se retrouve demain pour d'autres morceaux choisis et tout de suite sur les pages RFI, Facebook et Twitter d'Accent.